les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, c'est donc le mot « liberté » que nous allons continuer d'explorer en compagnie de Laurent Schlumberger. Laurent Schlumberger qui est l'actuel président de l'Église réformée de France. Laurent Schlumberger, merci donc d'être là devant les micros de Canal Académie. Vous dites « l'Évangile, c'est l'affirmation de la liberté de Dieu, source de la liberté de l'homme ». Expliquez-nous, qu'entendez-vous par là ?
C'est en effet l'affirmation permanente qu'on trouve dans la Bible, par exemple. Dieu est libre. Dieu est souverainement libre. C'est ce que les protestants rappellent volontiers quand ils parlent de la grâce de Dieu. Rien ne peut, comme disait Calvin, enclore Dieu. On ne peut pas enfermer Dieu ni dans un rite, ni dans une formulation, ni dans un lieu, ni dans des procédures, ni dans un rituel. Dieu est souverainement libre. Mais cette liberté de Dieu, que nous subissons d'une certaine manière. Luther dit que nous subissons comme la terre subit la pluie.
C'est très beau.
Cette liberté que nous subissons, c'est une liberté non pas pour notre malheur, c'est une liberté pour notre bonheur. C'est en ce sens-là qu'elle est source de notre liberté humaine. Dieu vient à notre rencontre librement. Pourquoi est-ce qu'il vient à notre rencontre ? Eh bien, je n'en sais rien. Parce que, voilà, c'est comme ça, parce qu'il l'a décidé. Et c'est cette rencontre qui fait naître notre propre liberté.
Parce que tout de même, dans le protestantisme, et avec tous ces grands réformateurs, ces réformateurs nous ont légué l'image d'un homme faible qui est dans la main de Dieu, qui dépend de Dieu, qui n'est rien sans lui. Alors la liberté de l'homme, on comprend un Dieu libre, mais un homme libre.
Je reprends ma comparaison avec l'amoureux. L'amoureux, il est transi, comme on dit quelquefois. Il est tout tremblant, il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne comprend plus rien. Et en même temps, simultanément, paradoxalement, il découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas avant de devenir amoureux. C'est la même liberté, c'est le même paradoxe dont il est question dans la foi. Oui, nous ne choisissons pas de rencontrer Dieu, c'est Dieu qui nous rencontre. Et à bien y réfléchir d'ailleurs. Il en va de même pour toutes les choses importantes de notre vie. Moi, je n'ai pas choisi l'époque à laquelle je vis. Je n'ai pas choisi ma langue maternelle. Je n'ai pas choisi mes parents. Mais si je n'étais pas dans une époque de l'histoire, je ne vivrais pas. Si je n'avais pas reçu une langue maternelle que je n'ai pas choisie, je n'aurais pas pu apprendre d'autres langues pour rencontrer d'autres personnes. Si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus, bons ou mauvais, eh bien je n'aurais tout simplement pas eu la possibilité d'exister. Il y a ce point d'accrochage, toujours extérieur, et que la Bible place en Dieu. Un point d'accrochage d'ailleurs qui vient bousculer les fatalités familiales. Vous savez, il y a tant d'histoires où Dieu vient bousculer les familles qui enferment. Dieu qui vient à la rencontre pour relever l'être humain de tout ce qu'il accable. Pensez aux scènes de guérison ou de miracles qu'on raconte à propos de Jésus. C'est ça que ces textes veulent dire. Non pas faire du merveilleux pour épater le lecteur, mais faire comprendre que la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu à travers Jésus, c'est ça qui ouvre un monde que l'on n'espérait plus, qui remet en marche, qui permet d'aller à la rencontre de l'autre et à la rencontre de soi-même. Donc, le fait que l'homme soit dans la main de Dieu, et le fait d'affirmer en même temps que l'homme est libre a quelque chose de paradoxal, mais un lien profondément intime parce que c'est justement le fait d'être dans la main de Dieu qui permet à l'être humain de se relever. C'est ce que la Réforme a essayé de faire entendre au XVIe siècle, dans une époque où on faisait confiance à l'être humain et où, d'une certaine manière, cette confiance faite à l'être humain le chargeait d'une responsabilité épouvantable et écrasante. Dans le domaine religieux, on disait à cette époque-là, « Eh ben, si tu veux être avec Dieu, il faut en être digne, il faut que tu prouves par tes capacités que tu peux arriver à sa hauteur, alors vas-y. » Et donc, on était angoissé à cette époque, au XVIe siècle, angoissé par le fait de se montrer à la hauteur, de rejoindre Dieu par la qualité de sa prière, par la qualité de sa vie chrétienne, par ses bonnes œuvres. Et inévitablement, on butait un jour ou l'autre sur une détresse profonde, « Mais je ne serai jamais à la hauteur de Dieu. » Si je lis dans les évangiles qu'il faut tendre la joue gauche quand on frappe la joue droite, qu'il faut donner tous ses biens aux pauvres, qu'il faut être parfait comme votre Père céleste est parfait, dit Jésus dans une sorte de provocation. Mais alors si c'est ça, si je suis libre d'essayer d'arriver à ça, je n'y arriverai jamais. Et c'est ça qui m'enferme dans une espèce de fatalité épouvantable. La réforme protestante au XVIe siècle a déclaré, comme une espèce de coup de tonnerre que nous avons beaucoup de peine à imaginer, mais Dieu sait bien que tu es à terre, que tu es incapable d'être à la hauteur de tes idéaux ou des exigences que tu places si haut. Mais Dieu n'est pas un juge, il est quelqu'un qui s'approche de toi, qui te rejoint là où tu es, qui te prend dans sa main. Et c'est dans sa main que tu es relevé. Voyez-vous, ce lien de dépendance à Dieu, c'est un lien qui brise toutes les autres dépendances. Et c'est en ça que ce message de la Réforme a été, au XVIe siècle, profondément libérateur, et qu'il l'est, à mon sens, tout autant aujourd'hui.
Laurent Schlumberger, vous dites « Le mouvement de la Réforme a été un bouleversement libérateur lors de son apparition. Aujourd'hui encore, son message est d'une pertinence libératrice profonde. » Quelques mots d'explication.
Nous sommes dans une époque qui renforce la compétition entre les personnes, la compétition dans tous les domaines. Nous sommes dans un monde où il faut faire sans cesse et toujours plus ses preuves. Alors non plus ses preuves face à Dieu comme au XVIe siècle, parce que Dieu a été mis de côté largement de nos sociétés. Mais il faut faire ses preuves face au patron, face aux autres, face à l'image de soi-même. Sans arrêt, il faut se justifier d'exister, se justifier d'avoir sa place, se justifier d'être là. C'est épuisant. Et c'est, je crois, dans cette espèce de compétition permanente que chacun de nous intériorise plus ou moins. Et donc qui le place en compétition permanente, même avec lui-même, que se trouve une des sources principales de l'épuisement qui est le nôtre et de l'épuisement de nos sociétés aujourd'hui. Et là encore, le message de l'Évangile me semble profondément libérateur. Si ce qui compte, c'est que Dieu nous connaisse comme nous sommes, non pas comme nous voulons être, non pas dans nos idéaux, non pas dans ce que nous essayons d'atteindre, mais comme nous sommes profondément. Si c'est comme ça qu'il nous accepte là où nous sommes et là où nous en sommes, alors je peux renoncer, apprendre à renoncer à ce qui me met sans arrêt en compétition avec moi-même, ce qui m'essouffle et ce qui m'épuise. Et alors, tous les pouvoirs visibles, mais aussi les pouvoirs intériorisés, les culpabilités, les insatisfactions, les injonctions identitaires, les assignations à tel ou tel rôle ou à tel ou tel idéal, tout ça se brise en mille morceaux. Non pas une seule fois comme ça par un coup de baguette magique, mais je peux toujours reprendre position, reprendre force dans cette reconnaissance de Dieu qui me rejoint là où je suis, qui me dit « je te connais » par ton nom, c'est-à-dire comme tu es, pour relativiser, mettre à distance, laisser tomber les pouvoirs qui, sinon, sans cesse revendiquent ma vie. Aujourd'hui, comme au XVIe siècle, même si c'est dans un contexte différent, nous sommes revendiqués sans cesse et éclatés sans cesse. La parole de Dieu rend libre en ceci qu'elle nous appelle et que tout autre pouvoir est mis sur la touche.
C'est pour ça que vous dites la Réforme, un bouleversement libérateur avec des conséquences concrètes, pas de dogme, pas de hiérarchie, pas de morale révélée, un attachement religieux à la laïcité, etc., etc.
Voilà, dans le protestantisme, en effet, ce sont des conséquences concrètes de cet attachement à la liberté de l'Évangile. C'est que, bien sûr, il y a des réflexions et des théologies, mais il n'y a pas de dogme auquel on est prié de souscrire. Il n'y a pas de hiérarchie sacrée, même s'il y a des personnes qui ont des responsabilités dans l'Église pour un temps et par élection toujours. Il n'y a pas de morale révélée à laquelle il suffirait de dire « Amen », mais au contraire, chacun est requis dans une morale vivante, dans des engagements éthiques singuliers dont il doit pouvoir rendre compte. Tout ça, ce sont des fruits de cette liberté. Et donc, on voit que cette liberté, ce n'est pas une facilité. C'est au contraire
lourd,
exigeant.
Très exigeant.
Ça peut être lourd très et exigeant à assumer. Quelquefois, d'ailleurs, trop exigeant. Il y a des effets pervers aussi, bien sûr, de cela, y compris au sein du protestantisme. C'est le prix de la liberté, c'est le fait qu'on est adulte et que quand on est adulte, on sait que les choses ne relèvent pas d'un monde merveilleux, d'un conte de fées.
Un exemple important par rapport à cette liberté que possède l'homme, l'objection de conscience, telle que la définissait le grand résistant protestant André Philippe, qui voyait en elle une action individuelle et prophétique par laquelle un homme s'élève au-dessus de la mêlée politique, écrivait-il, et sociale, pour affirmer une valeur morale, éternelle. Il disait qu'il appartient à chaque homme, à chaque femme, de regarder l'évolution du monde, d'interroger sa conscience et de prendre alors la décision individuelle qui paraîtra exigée de Dieu. C'est ce que vous nous disiez, c'est magnifique. Mais quel poids lourd !
Alors ça peut être un poids lourd et en effet, dans la manière dont André Philippe formule cet appel à la conscience, je trouve qu'il y a quelque chose d'écrasant. Peut-être parce qu'il manque dans sa formulation que vous avez citée, le tête-à-tête avec Dieu. On a l'impression d'un homme seul, le mot individuel revient plusieurs fois, qui est écrasé par sa propre conscience. Mais ça a quelque chose d'effrayant. Au contraire, dans la foi, c'est au tête-à-tête, toujours avec un autre auquel on est appelé, le tête-à-tête avec Dieu, qui n'est jamais dans le registre de l'exigence écrasante, mais toujours dans la rencontre, dans la proximité, dans le nom qu'il murmure à notre oreille et qui nous rend capables d'être sujets et responsables.
Oui, parce que sans quoi cette liberté pourrait marginaliser ?
Elle pourrait être seulement pour des purs, pour une élite, pour quelques-uns. Au contraire, le message de la réforme, avec le rappel constant de l'évangile qui s'adresse aux petits comme aux grands, c'est un message qui a été porteur d'une liberté pour tous et non pas seulement d'une liberté pour quelques-uns.
Laurent Schlumberger, je rappelle que vous êtes président de l'ERF, l'Église réformée de France. Merci d'avoir réfléchi autour du mot « liberté » devant les micros de Canal Académie. Merci encore.
Merci.